députés de la 5e circonscription des fédérations de l'étranger de juin 2017 à septembre 2021, puis sénatrice, représentant toujours les Français de l'étranger, Samantha Cazebonne est membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat. En mai 2023, elle écrivait une lettre ouverte à la ministre des Affaires étrangères pour l'alerter sur le dispositif de l'AEFE d'aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Dispositif en vigueur depuis la rentrée 2021, mais qui semble, selon les termes de la lettre, laborieux quant à sa mise en place. Co-signée par des députés et des conseillers des Français de l'étranger, cette lettre a reçu une réponse de la ministre. Samantha Cazebonne est avec nous pour en parler. Madame la sénatrice, bonjour.
Bonjour madame, ravie d'être avec vous.
Alors pourquoi cette lettre ?
Tout d'abord, si vous me permettez, je refais juste un petit point de situation sur le dispositif AESH et son financement désormais par les bourses. D'abord, ce dispositif, au sens accompagnement pour l'ensemble des familles désormais qui ont un enfant en situation de handicap, eh bien, ce dispositif est tout nouveau. Il a à peine 2 ans, on peut considérer qu'il est encore, je dirais, dans une phase de rodage. Mais néanmoins, depuis maintenant 2 années, nous avons suscité énormément d'attentes. Des attentes d'abord d'un point de vue de l'accompagnement, d'un point de vue du financement. Et donc, il me paraissait important, au vu des nombreuses sollicitations que nous avons eues, de pouvoir porter la parole et à la fois des parents et des élus, puisque les intermédiaires entre les parents et les parlementaires sont bien souvent les élus ou conseillers français d'étrangers qui m'ont alerté à de nombreuses reprises. Et donc, il me paraissait important, au-delà du fait que ce dispositif est récent, qu'il est abondé chaque année avec des centaines de milliers d'euros supplémentaires. Il faut savoir que nous avons commencé avec 0,5 million d'euros et nous sommes aujourd'hui à plus d'1,3 million et que nous allons continuer évidemment à défendre ce budget. Et je vous rappelle quand même, cela a été le premier sujet dès lors où j'ai été élue en 2017 que j'ai souhaité porter auprès de l'AEFE, à l'époque auprès de l'OBEP, puisque je siégeais déjà au conseil d'administration de l'agence. J'ai soutenu des financements spécifiques pour ces élèves à besoins particuliers, parce que vous connaissez mon histoire, je suis à la fois chef d'établissement et maman et encore beaucoup d'autres choses pour ce réseau d'enseignement français de l'étranger, et ce sujet a été pour moi l'un des plus difficiles en tant que professionnelle, je dirais, à porter, parce que souvent nous étions démunis. Et donc cela a été, donc je dirais, un sujet fort que je continue à porter à la fois au niveau de l'exécutif, mais aussi sur le terrain, parce que je crois que là encore, comme vous le disiez tout à l'heure dans ce courrier, c'est l'unité ou l'union qui fait la force, et qu'en cela, pour alerter avec force, eh bien, il nous faut nous unir. Et ce courrier, il a un double impact pour moi. D'abord, c'est une alerte sur les préoccupations des familles, une alerte sincère, une alerte qui ne remet pas en question des fonctionnements, mais simplement a vocation à aider l'administration, à aider ses personnels à obtenir aussi des moyens supplémentaires. Vous savez que souvent le politique agit, mais aussi agit par réaction. Et il me paraissait important de pouvoir lui permettre de réagir suite à cette alerte avec de nombreux co-signataires sur des points en plus faciles, je dirais, à régler pour certains, un peu plus compliqués pour d'autres. Et la ministre, d'ailleurs, a répondu avec des explications qui sont convaincantes, parce que aujourd'hui, il me paraissait important que des moyens humains soient mis en place pour pouvoir accompagner les familles, que les chefs d'établissement puissent avoir la possibilité, dès lors où les enfants sont scolarisés déjà, où il est possible de les suivre préalablement à la rentrée de septembre par le biais des familles qui prendraient contact pour une inscription, et bien justement pour gagner du temps. La ministre, en cela, par le biais de l'AEFE, nous a rassurés et surtout s'est engagée à financer de façon beaucoup plus rapide ces dispositifs de bourse qui sont parfois complexes, hein, il faut le reconnaître. On est aussi sur des centaines de milliers d'euros à gérer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes sur 287 bénéficiaires et que nous sommes partis d'un tout petit nombre. Avant, il n'y avait que les élèves boursiers qui bénéficiaient de cela. Aujourd'hui, ce sont tous les enfants. Nous avons voulu coller à ce que fait la France sur le territoire national. Il nous paraissait juste que les Français de l'étranger puissent bénéficier exactement de la même aide pour ces enfants en situation de handicap qui nous sont chers et surtout qui font notre diversité, notre mixité dans nos lycées français à l'étranger et surtout la preuve de notre excellence. Vous savez, l'excellence à la française, souvent on s'entend en disant bravo, c'est quelque chose dont on est fier, certes. Certes, nous sommes fiers de l'excellence pédagogique, de l'excellence académique, mais nous sommes aussi fiers lorsque nous sommes chefs d'établissement, professeurs, parents et élèves, évidemment aussi de pouvoir accueillir cette différence qui est une richesse pour nos écoles. Donc, l'ouvrir à l'ensemble des familles, des classes moyennes, c'était tellement important. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait, mais des ajustements étaient nécessaires. Je pense qu'ils sont aujourd'hui entendus et les réponses sont, pour moi, très convaincante, mais je dirais assez rapide en plus à mettre en place.
Alors justement, vous disiez nous, Action Commune, comment vous avez choisi vos signataires? C'est des élus qui sont venus vous voir, vous solliciter?
Assez simplement, je vous cache pas. Tout simplement, les gens avec qui je travaille et qui me sollicitent de façon très régulière. Moi, j'ouvre ma porte à tous ceux qui veulent travailler avec moi. Quel que soit le bord politique, moi, dès l'instant où on me sollicite, je réponds. Je réponds et en plus, j'essaye d'être inclusive. Pas de problème, je suis prête à ouvrir au-delà. Mais ce que je veux dire pour cette co-signature de ce courrier, assez spontanément, eh bien, je l'ai déposé sur une boucle commune d'élus avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui me sollicitent surtout après, libre aux uns et aux autres, par le biais évidemment des échanges au sein des conseils consulaires, de communiquer à l'interne. Et moi, j'étais prête à inclure tous ceux qui voulaient co-signer et pourquoi pas une prochaine fois. Bon, ouais. Là, en l'occurrence, ça s'est fait comme ça. Et je ne m'attendais pas à un tel engouement, hein, je vous cache pas. Tant mieux, moi j'en suis vraiment ravie. Et je pense que c'est un procédé que j'utiliserai régulièrement.
Très bien. Revenons sur la partie concrète de la réponse de la ministre. Pour les familles qui sont concernées, c'est-à-dire des familles avec des enfants présentant un handicap, qu'est-ce que ça apporte de concret, cette réponse?
Juste un point, s'il vous plaît. Je vous ai parlé des élus, mais il me semble aussi extrêmement important de rendre à César ce qui est à César. Certes, quand on est politique, on est en lumière, en plus quand on est parlementaire. Mais en fait, moi, je veux absolument partager cette lumière parce que elle ne me revient pas à moi. Je m'appuie sur des équipes, comme je vous le disais, des équipes qui travaillent avec moi au quotidien, mais aussi des associations de parents d'élèves. Ce sont elles aussi qui sont extrêmement proactives. Certaines siègent à l'Observatoire des besoins éducatifs particuliers, comme je disais tout à l'heure, l'OBEP, au sein du CA, et pour ne citer qu'une association qui effectivement s'engage énormément depuis des années, qui est la FAPE, ce travail de diagnostic, et donc je reviens tout de suite aux réponses de la ministre, s'appuie aussi sur leur travail d'évaluation sur le terrain et sur leur remontée. Et je tiens à le dire parce que les solutions aussi, nous les travaillons ensemble. Et donc la ministre, de manière assez pragmatique, par le biais de la VFE, eh bien nous a déjà assuré d'un délai qui effectivement serait beaucoup plus raisonnable, parce qu'aujourd'hui on peut considérer que le délai est déraisonnable. Une année parfois d'avance des familles, non, ce n'est pas possible. Moi j'ai le cas qui m'a déchiré le cœur sur Madagascar, de certaines familles. Non, c'est pas possible dans un pays comme celui-ci. En plus, quelque part, c'est un peu, pardon de le dire ainsi, le serpent qui se mord la queue, parce que les familles n'ont pas les moyens souvent d'avancer les frais de diagnostic, parce que ça aussi c'est important. Pour pouvoir bénéficier d'un recours à ESH ou d'une aide à ESH, il faut déjà un diagnostic. Donc rappelez que certaines familles n'ont même pas les moyens de ce diagnostic, mais qu'ensuite elles n'ont pas non plus les moyens de l'avance. Donc ça, il faut absolument trouver la solution, et la ministre s'y est engagée. Ensuite, il y a la difficulté aussi que nous constatons à déterminer le taux horaire de l'AESH, parce que le taux horaire pour un personnel AESH, parfois se chiffre à en dessous une dizaine d'euros de l'heure, mais largement en dessous une dizaine d'heures. Donc On ne peut pas recruter décemment des personnels parfois de qualité. Et c'est important pour accompagner ces enfants d'avoir des personnels de qualité qu'on va former aussi en parallèle. Eh bien, là encore, il était important de signaler, et ça va être corrigé dans le cadre d'une action commune CNB, Commission nationale des bourses et OBEP. Des groupes de travail sont constitués, c'est ce qu'on attendait aussi, pour harmoniser ces taux horaires de prise en charge pour que les familles sachent s'y retrouver. Ensuite, il y a les MDPH. Alors là, les MDPH, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci parce que malheureusement, je dirais, il n'y a pas d'harmonisation. Et que en fonction des MDPH, vous pouvez avoir la chance d'avoir un délai de traitement rapide. Et puis d'autres, ça peut aller jusqu'à des années, beaucoup, beaucoup trop long. Donc, le travail aussi que souhaite engager la ministre par le biais de l'AEFE et des groupes de travail dont je vous ai cité le fonctionnement entre la CNB et l'OBEP, eh bien, est d'accompagner, j'ai envie de dire, les MDPH à mieux traiter, donc à mieux les faire connaître les profils de nos parents qui vont évidemment envoyer un certain nombre de documents et suivre un process pour obtenir ce financement. Donc, mieux sensibiliser les MDPH aux Français de l'étranger. Donc ça aussi, ça fait partie des engagements. Et puis, la procédure également de renouvellement de demande de prise en charge auprès de l'AEFE, qui doit être renouvelée chaque année. On aimerait là aussi qu'il y ait un automatisme. On se heurte après à des fonctionnements de logiciels qui bloquent tout un système. Bon, pour ne pas le nommer Scola, qui posait un problème parce que on ne pouvait pas traiter au fil de l'eau les demandes. Donc, il y avait des temps et bien évidemment, ces temps-là étaient beaucoup trop longs encore une fois ensuite puisqu'il y a toute une phase de traitement et tout en nous amenant l'argument que j'entends au demeurant, je ne le remets pas en question. On ne peut plus l'entendre d'un logiciel qui ne serait pas, on va dire, suffisamment optimum pour pouvoir traiter dans de bonnes conditions. Donc là aussi, ça doit être amélioré dans le cadre du groupe de travail pour qu'on apporte des solutions et qu'on nous prétexte pas que c'est à cause de Scola, que ce soit au niveau des consulats. D'ailleurs, moi, souvent, quand je me suis déplacée, les consulats étaient eux-mêmes dépourvus. Et de ce que j'ai compris de ce courrier, eh bien, aujourd'hui, les moyens vont être mis. Et croyez bien, madame, que nous allons veiller de très, très près, en tant qu'élus que nous sommes tous, à ce que tout ce qui a été pris comme engagement soit tenu.
Comment est-ce que la mise en œuvre de ces avancées, ça va se faire? L'ensemble des établissements vont être informés. C'est vraiment sur le concret. À partir de quand tout ça sera mis en place? Je sais que la réponse est assez récente de la ministre.
Alors déjà, une grosse avancée dans le courrier, c'est clairement écrit nomination d'un agent de l'AEFE dédié spécifiquement. Donc déjà, ça, c'est un ETP supplémentaire, donc on peut le saluer et remercier parce que c'est un effort financier qui n'est pas négligeable et qui va donc soulager aussi le service des bourses actuelles qu'il faisait en plus de ses missions. On a donc dans le groupe de travail aussi des personnels et puis un certain nombre d'acteurs qui s'engagent à accompagner aussi, donc à faciliter la compréhension du terrain. Il y a l'élaboration aussi d'un barème de rémunération, donc par la sous-direction de l'aide à la scolarité, parce que je tiens aussi à les saluer, ils s'engagent énormément pour que chaque poste consulaire puisse obtenir, en fonction du niveau de vie local, des barèmes qui cadrent un peu mieux et leur permettent de ne pas avoir parfois à être déceptif auprès des familles. Donc l'idée, c'est vraiment d'encadrer et d'accompagner les chefs d'établissement, également les postes consulaires et qui auront en charge donc d'accompagner eux-mêmes ces familles. Alors je vous rappelle, on est sur 287 aujourd'hui bénéficiaires, ce qui est au fond assez peu à l'échelle du réseau. Donc on espère vraiment que ce processus accompagné par un livret, eh bien, va permettre une individualisation plus simple et surtout de rassurer les familles. Mais les rassurer, c'est une chose. Et je le redis, ce qui va être très important à vérifier dans les engagements, c'est que les familles n'aient plus à avancer sur un certain nombre de mois ces frais en amont, en tout cas, et ensuite rétroactivement sont remboursés. Mais parfois, c'est des sommes très lourdes.
Très bien, donc là, on est effectivement sur un sujet qui avance et qui avance de façon plutôt positive. On va faire un point un petit peu plus général sur l'enseignement français à l'étranger. Je vais revenir sur la plateforme dont vous êtes la créatrice Reflex, qui permet justement d'échanger et notamment les attentes, les perspectives. Est-ce que sur cette plateforme, on a ressenti qu'il y avait une attente, qu'il y avait un besoin?
Ah oui, alors clairement. Mais non seulement clairement, mais hier, nous étions justement en réunion avec des acteurs qui m'accompagnent. Et le constat, il est très clair. En fait, Reflex a vocation à parler à tout le monde. Quand j'y parlais, c'est surtout essayer de répondre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité, par le biais de ceux qui les accompagnent, je prends des exemples très simples, AEFE, MLF, AFLEC, eh bien, tous ceux qui, d'abord, et d'une, n'appartiennent pas à l'une de ces maisons, eh bien, de se retourner vers nous et surtout d'avoir aussi, dès lors où ils peuvent aussi appartenir à l'une de ces maisons, avoir des questions sur d'autres fonctionnements. Donc, que ce soit des professeurs, que ce soit des chefs d'établissement, que ce soit des parents d'élèves, bien évidemment, qui sont le cœur de ceux qui sollicitent Reflex, eh bien, nous apportons ces réponses qui peuvent être diverses et variées sur les fonctionnements de l'établissement, sur parfois, ça peut être aussi des sujets bien précis qu'on aborde dans nos rendez-vous Reflex, l'inclusion, la formation, mais ça peut être aussi sur des sujets d'homologation, comme sur des sujets de statut d'établissement, comme sur des financements, comme sur des bourses. En fait, on s'aperçoit que nous répondons vraiment à un besoin qu'on avait largement identifié. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la difficulté, c'est que nous ne sommes que des bénévoles engagés qui essayons et on est sollicités de plus en plus sur des sujets divers et variés. Donc, nous avons besoin aujourd'hui de renforts. Et je pense que ce sera un sujet que j'évoquerai aussi très prochainement avec la DGM et son directeur Aurélien Le Chevalier, parce que je pense qu'il est important que ce que fait Reflex aujourd'hui, finalement, l'administration puisse y apporter son soutien, parce que nous répondons aujourd'hui à un besoin largement identifié qui dépasse l'opérateur public. Quand je dis qu'il dépasse, c'est-à-dire que, moi je vais vous donner des exemples très simples, je n'ai encore jamais vu ou très peu, par exemple, l'AEFE parlait de dispositifs mis en place par la FLEC ou même la mission laïque française. De la même manière, je n'ai jamais vu de dispositif mettant en avant les fonctionnements de l'AEFE sur le site de la MLF. On veut montrer tout ce qu'il y a bien dans ce réseau. Donc, on veut ouvrir au maximum de personnes ce qui se fait. Donc, c'est pour ça que nous allons piocher l'information partout et nous répondons donc à tous ceux qui nous sollicitent et surtout tous ceux qui n'obtiennent pas de réponse, en fait.
Je vais terminer sur une touche un peu plus symbolique et qui touche l'enseignement aussi. Il y a le retour, la grande discussion sur le retour de l'uniforme avec une expérimentation que souhaite lancer le ministre Gabriel Attal. Comment est-ce que vous pensez que l'AEFE peut s'intégrer dans cette démarche, sachant bien évidemment que dans beaucoup d'établissements français à l'étranger, l'uniforme est déjà en place, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut aussi généraliser à l'étranger?
Alors, avant de parler au nom de l'AEFE, je vais vous parler en quelques minutes de mon avis à moi, en tant que chef d'établissement et maman. Si je devais un jour diriger encore un établissement scolaire, il est clair que je solliciterais une expérimentation en la matière, parce que qu'on soit parent ou même chef d'établissement, je peux vous dire que c'est une simplification de la vie au quotidien, entre la hauteur des t-shirts, entre la longueur des jupes et des shorts, et puis surtout, je dirais aussi parce que c'est une manière... Là encore, hein, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois beaucoup à l'esprit d'équipe, je crois beaucoup en l'unité, et qu'à titre personnel, non seulement je défends cette mesure, mais si j'avais pu le faire, je l'aurais mis en place dans chacun de mes établissements. Alors, je ne me fais pas que des amis en disant cela, parce qu'il y a beaucoup de résistance, entre autres du personnel enseignant, je peux les comprendre au nom d'une liberté que je défends par ailleurs, mais quand je vois... à la fois nos élèves venir avec tous les dans la mesure où ils peuvent se les offrir les mêmes chaussures, les mêmes marques de baskets ou de jeans, et je vous parle même pas des sacs à dos, je me dis qu'au fond l'uniforme il est déjà imposé par la consommation du quotidien et je dirais par les influenceurs des grandes marques. Donc que ce soit aujourd'hui finalement l'institution qu'il propose et qu'il propose également à l'AEFE de le déployer à tous les établissements qui veulent l'expérimenter. Moi, je vais vous dire, je dirigerai aujourd'hui un établissement. Ce serait la première mesure que je mettrai à l'ordre du jour de mon conseil d'administration. Êtes-vous pour ou contre? Si vous êtes contre, argumenter pour le contre, et si j'ai que des contre, si une majorité de contre, eh bien j'essaierai, je ne vous cache pas, de démontrer sans passer en force. Je n'aime pas les passages en force, mais j'essaierai de démontrer à quel point il est pertinent de le mettre en place. Donc l'AEFE devrait être, je dirais, dans le même état d'esprit, expérimentation pour tous ceux qui voudront le mettre en place. Je ne vois pas pourquoi elle serait exonérée de cette possibilité.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.